Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cet épisode 9 du livre « Les Victorieuses » de Laetitia Colombani, édition Grasset dans le livre de poche, je vous propose de reprendre pour une meilleure compréhension quelques pages déjà parcourues lors du dernier épisode. Il concerne la vie de cette SDF qu'on appelle la Dame au cabas ou la Renée. Elle réside depuis de longues années au palais de la femme. Je lis. L'enfer a duré 15 ans. 15 ans approximativement, ajoute la Renée. Sans sommeil, on perd la notion du temps. Dans la rue, il se dilate, s'étire comme un ballon de baudruche dans lequel on aurait trop soufflé. On cesse de compter les jours, les mois, les années. Le pire, c'est le métro. Il ne faut pas s'en approcher. Ceux qui s'y réfugient n'en reviennent pas. Certes, il y fait chaud, mais on plonge plus vite. Dans ces couloirs, on ne distingue même plus le jour de la nuit. On devient fou. Elle en a perdu des amis qui ont succombé à la tentation des profondeurs et ne sont jamais ressortis. Il faut rester dehors, coûte que coûte. Tenir, ne pas sombrer. L'alcool et la drogue, c'est idem, dit la Renée. Elle a toujours refusé d'y toucher. Un coup de rouge de temps en temps, quand il fait trop froid, ça s'arrête là. Comme le métro, l'alcool est un piège, un puits sans fond, dans lequel il est facile de tomber. Il faut un sacré tempérament pour résister, elle peut en témoigner. Malgré la violence, malgré la faim, le froid, les agressions, la Renée n'a jamais lâché. C'est ainsi, elle est une force de la nature. Elle vient du Nord, là-bas, on est fait d'un bois dur, confie-t-elle, un bois qui ne rompt pas. Quelque chose en elle a tenu, quelque chose voulait continuer. À l'issue d'une ultime agression plus dévastatrice encore que les précédentes, elle s'est retrouvée à l'hôpital, inanimée. C'est là qu'elle a rencontré l'ange, comme elle l'a baptisé, une jeune assistante sociale, plus zélée que les autres. Effarée par son état, l'ange s'est juré de la sortir de là. Pas facile, à dire vrai. La Renée ne s'est pas laissée approcher comme ça. Des promesses, elle en avait trop entendues. On ne la lui faisait plus. La rue vous endurcit, vous rend méfiant comme un animal blessé. Qu'importe ? L'ange a pris la Renée à bras le corps. Elle l'a soutenue, accompagnée, portée. À bout de force, à bout de bras, à bout de dossier. Elle l'a aidée à refaire ses papiers. Des années qu'on les lui avait volés, que la Renée vivait sans identité. À obtenir le RSA auquel elle avait droit. Il a fallu patienter de longs mois, remplir des questionnaires, se rendre à des entretiens. Cela n'a l'air de rien, mais relève du défi pour un sans-abri. Sans notion du temps, sans personne pour vous réveiller lorsque vous vous effondrez après une nuit passée dehors, il est presque impossible d'honorer un rendez-vous. Pourtant, la Renée l'a fait. Grâce à l'ange, elle a surmonté toutes les difficultés. Bien sûr, il y a eu des ratés, des prises de bec, l'envie de tout abandonner. Quelques plumes ont volé, mais ensemble, elles y sont arrivées. Leur demande d'accueil en foyer a fini par aboutir après des mois de combat. Elles ont fêté la nouvelle autour d'une assiette de fricadelles, le plat préféré de la Renée. Sa troisième vie a débuté ici, au palais. Quand elle est arrivée, la Renée tenait à peine debout. Salma peut en témoigner. Elle s'est endormie sur l'un des fauteuils de l'accueil avant même d'avoir récupéré ses clés. Cartonnée de fatigue, elle s'assoupissait partout, parfois au milieu d'une phrase, d'une discussion. Elle a passé des jours entiers à dormir dans le grand foyer, dans la buanderie, au pied de son nouveau lit, auquel elle ne parvenait pas à s'habituer. Il lui faudra du temps pour se faire au matelas. Bien sûr, le combat n'est pas terminé. Il reste du chemin à parcourir. Mais la Renée est là, en vie. Elle a un toit. Plus personne ne l'éveille la nuit à coups de pied pour la violer. Entre les murs du palais, elle tente de retrouver sa dignité qu'elle a laissée sur un banc il y a bien longtemps. L'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à regagner. En attendant, elle garde la tête haute. La tête haute toujours, telle est la devise de la Renée. Chapitre 23. Paris, 1926. C'est fou ce que les Perrons parviennent à obtenir. Ils ont un don pour ça. Dans les rangs de l'armée, on loue l'ardeur et la ténacité des deux commissaires. En ce début de printemps 1926, la souscription pour le projet du Palais de la Femme bat son plein. Le 6 mai, le deuxième million de francs est atteint. Les travaux viennent de démarrer. Blanche tient à s'assurer elle-même de leur bon déroulement. Elle se plaît à visiter le chantier en imaginant à quoi ressemblera l'endroit une fois rénové. Chaque chambre de 9 mètres carrés sera dotée d'un lavabo en grès émaillé blanc, alimenté d'eau chaude et d'eau froide. Les murs seront peints et le parquet ciré. Chaque studio comptera un lit, une armoire avec penderie, étagères et tiroirs, ainsi qu'une petite table et une chaise. Le bâtiment prévoit aussi 2 dortoirs d'attente de 25 places. Suivant l'étage, les chambres seront peintes de différentes couleurs, en bleu, en vert, en beige et en gris. Outre les plaques sur les portes, des panneaux seront installés dans les couloirs pour aider les occupantes à se repérer. Dans les espaces communs seront aménagés une laverie, une salle à manger où pourront être servis des centaines de repas, une salle de récréation, une bibliothèque que l'on s'appliquera à remplir d'ouvrages, une salle de gymnastique, des salles de couture, de réunion, un parloir pour les visites. Enfin, les terrasses sur le toit seront transformées en aires de repos et en jardins d'enfants, afin que les résidentes ouvrières puissent faire garder leurs petits. Blanche le voit déjà, son palais de la femme, un refuge pour toutes celles que la vie a malmenées, que la société a mises de côté, une citadelle où chacune aura son logis bien à elle, une chambre chauffée, aérée, confortablement meublée, une chartreuse de paix, un palais pour panser ses blessures et se relever. Son enthousiasme, pourtant, se ternit devant l'état des comptes. Les souscriptions se poursuivent, mais ce n'est pas assez. Les sommes englouties dans les travaux sont faramineuses. La rénovation se révèle particulièrement coûteuse. Il faut démolir des cloisons, en construire de nouvelles, refaire des terrasses et des planchers, transporter les lavabos dans les étages, aménager les cuisines, remettre en état le chauffage central et l'éclairage, repeindre des milliers de mètres carrés de murs et de plafonds. 1,5 million est encore nécessaire pour régler les dépenses engagées. Sans parler du remboursement du capital emprunté auquel il faudra bien songer. Pour la première fois, Blanche se met à douter. N'a-t-elle pas vu trop grand? Ne s'est-elle pas montrée plus qu'ambitieuse en se lançant dans ce projet? Au nom de la cause et des démunis, n'a-t-elle pas cédé au péché d'orgueil, de vanité? Elle s'est crue assez puissante pour surmonter les difficultés, pour convaincre le monde entier du bien fondé de son action. L'avenir lui donnera-t-il raison? Ou aurait-elle engagé l'armée dans un gouffre financier sans fond? Blanche perd pied. En Alsace, où elle donne une série de conférences, elle s'effondre à la fin d'un discours. Elle reste allongée plusieurs heures, sans parvenir à se relever. Elle rentre à Paris, exsangue, plus faible que jamais. Albin est inquiet. Sa Blanche, d'ordinaire si fière, si conquérante, cède à la fatigue, à l'accablement. Sa santé s'altère. La toux ne la laisse plus dormir. Elle souffre des oreilles, des dents, de la gorge. La migraine lui tenaille le cerveau. Une sciatique la torture, entravant ses mouvements. Lors de ses longues heures d'insomnie, Blanche se lève, tourmentée, et arpente le salon de l'appartement. Elle n'a pas le droit de faillir, pas maintenant. Elle songe à toutes les guerres qu'il a fallu mener, toutes les batailles qu'elle a livrées depuis ses débuts dans l'armée. Son énergie l'abandonne aujourd'hui, son corps l'a trahi. Dans ses lectures, elle tente de trouver l'ultime recours, la force de continuer à lutter. Elle relit les pages de son livre de chevet, « Courage » de J.M. Barrie, l'auteur de Peter Pan, dont elle a souligné des passages tout au long de sa vie. « Il y a devant vous des années glorieuses, à condition que vous désiriez qu'elles le soient. Allez donc de l'avant comme des braves. » Elle invoque Sainte Thérèse de Lisieux. « Le Seigneur m'a fait cette grâce de n'avoir nulle peur de la guerre. » Elle retrouve les vers de Victor Hugo, son cher Victor Hugo, dont elle aime tant le souffle et reconnaît l'engagement. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. » Blanche a toujours admiré le grand homme et le cite dans ses conférences. Son discours sur la misère est une référence. Récemment, elle a choisi un de ses poèmes pour illustrer la revue En avant. Donnez, il vient un jour où la terre nous laisse. Vos aumônes là-haut vous font une richesse. Donnez, afin qu'on dise il a pitié de nous, afin que l'indigent que glacent les tempêtes, que le pauvre qui souffre à côté de vos fêtes, au seuil de vos palais, fixe un œil moins jaloux. Depuis l'enfance, Blanche est une insatiable lectrice. Malgré les aléas de la vie, elle n'a jamais cessé de lire, trouvant réconfort et inspiration auprès de ses auteurs favoris. Hélas, Victor Hugo n'est plus et la voix de Blanche s'éteint lentement. C'est Albin, le partenaire fidèle et dévoué, le complice de toujours, le compagnon d'armes et de cordées qui trouve les mots pour la relever. Il se l'était promis ce jour-là sur le grand bi. Si l'un tombe, l'autre le rattrapera. Ainsi font les soldats. À deux, on est plus fort. Seul, on ne va jamais loin. Blanche se souvient de ce qu'il avait dit. Il n'a pas menti. À ses côtés, Albin n'a jamais faibli. Les obstacles ne sont que des cailloux sur la route, lui dit-il. Le doute fait partie du chemin. Le sentier n'est pas uniforme. Il y a des passages agréables, des tournants raboteux et pleins d'épines, du sable, des rochers, avant les prairies couvertes de fleurs. Il faut continuer d'avancer, quoi qu'il en coûte. « Tu es une guerrière !» lui souffle-t-il un soir. « Un ange combattant, ta force est immense, ta vie laissera un profond sillon. » Le lendemain, Blanche est debout. La fièvre est tombée dans la nuit. Albin voudrait qu'elle se repose, mais elle sourit. « Ne t'en fais pas, dit-elle. J'aurai bien le temps de remettre mes bronches avant la prochaine tournée. Plutôt mourir dans la lutte que vivre loin d'elle. » Et Blanche repart en guerre dans cet uniforme qu'elle n'a jamais cessé de porter. Sa foi et son épée, la confiance et l'amour d'Albin sont ses meilleurs alliés. Ensemble, ils vont continuer à gravir le chemin sur lequel ils se sont engagés il y a près de 40 ans. Si les traits de leur visage se sont affaissés, si leur démarche est un peu moins assurée que par le passé, l'amour est toujours là et il va les conduire jusqu'au sommet. Chapitre 24. Paris, aujourd'hui. Un silence de mort règne au palais. Solène le sent immédiatement en franchissant les portes. Il est arrivé quelque chose ? Le comptoir de l'accueil est désert, comme le grand foyer. Prise d'un sombre pressentiment, elle marche en direction des bureaux, frappe aux portes. Personne ne répond. Elle finit par gagner la grande salle de réunion où sont réunis les employés et la directrice. Salma s'avance vers Solène, les yeux rouges et gonflés. « C'est Cynthia » souffle-t-elle. Cela faisait 3 jours qu'elle ne s'était pas montrée. Certaines résidentes s'enferment dans leur chambre des semaines entières. Mais ce n'est pas le genre de Cynthia. Salma s'est inquiétée. Elle est allée frapper à sa porte, à questionner les tatas. Personne n'avait vu ni entendu la jeune femme depuis un moment. Un calme suspect. Salma a demandé l'autorisation de dupliquer la carte magnétique qui permet d'entrer dans les chambres. C'est là qu'elle l'a trouvée, étendue sur son lit, sans vie. Cynthia a laissé une lettre sur la table de nuit. Ces mots, Salma ne les oubliera jamais. Ils sont gravés dans sa mémoire comme un testament, le dernier cri de Cynthia avant l'éternité. Elle disait qu'il était trop tard pour elle depuis longtemps, trop tard depuis toujours, que sa naissance n'avait servi à rien, qu'elle n'était pas désirée, que sa vie n'avait été qu'une longue série de désillusions et de souffrances, qu'elle aurait préféré ne pas exister. Que son fils était la plus belle chose qui lui soit arrivée, qui lui avait offert les seuls moments de joie qu'elle avait connus. Qu'elle espérait qu'il serait adopté et trouverait des parents qui prendraient soin de lui mieux qu'elle ne l'avait fait. Qu'elle choisissait de partir avec sa vieille copine, cette drogue que l'on dit dure mais qui lui promettait une douce échappée. Qu'elle n'emporterait pas sa colère avec elle, qu'elle préférait la laisser là, entre les murs du palais. Qu'elle garderait seulement le rire de son fils, son rire d'enfant quand elle le chatouillait. Le rire de son fils, juste ça, avant de s'en aller. Solène est muette. Cette disparition la foudroie. La mort de Cynthia, c'est l'échec de toute la société, celui du palais, de l'aide à l'enfance, celui des foyers d'accueil et des éducateurs, de tous ceux que la jeune femme a croisés au cours de sa brève existence. Malgré les efforts des uns et des autres, personne n'a su l'aider, la tirer des sables mouvants dans lesquels elle s'enfonçait lentement. « T'es comme les autres, tu sers à rien !» Solène se souvient de ces mots. La culpabilité vient la heurter, la frapper aussi brusquement que le coup de poing de Cynthia sur son ordinateur ce jour-là. Solène est assaillie de questions. Que serait-il advenu si elle avait accepté de l'aider ? Salma interrompt ses élucubrations. Solène n'est pas responsable de ce drame, pas plus que les femmes du palais. Ce qui a tué Cynthia, ce n'est pas le bruit dans les couloirs, ni les poussettes des tatas, ni même le studio qu'elle réclamait à corps et à cri et n'obtenait pas. Ce qui l'a tué, c'est l'amour qu'elle n'a jamais reçu. C'est ce vide de l'enfance, ce manque en elle jamais comblé. Ce gouffre que rien ni personne n'a pu colmater, pas même l'amour d'un fils. Ni la plus dure des substances. On peut changer de chambre, changer de quartier, de ville ou de pays. On emporte partout son mal-être avec soi, dit Salma. Le manque d'amour, voilà ce qui a tué Cynthia. Voilà le seul coupable. Dans l'ancienne salle de culte, les femmes se sont réunies pour rendre hommage à Cynthia. Elles se sont succédées pour dire des prières à son intention. Des prières dans toutes les langues, de toutes les religions. Une veillée a été organisée dans le grand foyer. Solène n'avait pas le courage de rentrer chez elle. Elle est restée avec les résidentes et les employés. Elle sentait que sa place était là parmi elles. Des bougies ont été allumées. Un repas a été improvisé dans des assiettes en carton. Des tasses de thé distribuées. Il y a eu des chants, des prises de parole inopinées au milieu des conversations. Quelqu'un a même apporté une guitare. Une collecte a été lancée pour financer les funérailles. Une autre pour le fils de Cynthia. Des boîtes à chaussures ont circulé, chacune y déposant ce qu'elle voulait. La veillée a duré toute la nuit. Non pas une veillée silencieuse recueillie, plutôt une veillée agitée, bordélique et confuse à l'image de Cynthia. On avait besoin de parler, d'échanger, de penser à celle qui n'était plus là, la révoltée, l'écorchée vive, qui n'aimait personne et dérangeait tout le monde. Malgré sa violence et ses débordements, Cynthia était un membre à part entière de la communauté, la petite sœur sacrifiée, la plus turbulente, la plus impertinente, la plus insupportable, la plus désespérée. Solène quitte le foyer au petit matin, terrassée de fatigue et de chagrin. Dans la lumière grise de l'aube, le palais lui apparaît sous un jour différent. Il n'est plus cette forteresse aux lignes rassurantes, ce refuge, ce navire recueillant les exclus de la société. Il n'est plus l'arche de Noé, mais un bateau qui prend l'eau. Il a laissé l'une de ses protégées se noyer. Il s'est transformé en tombeau. Plus jamais le grand foyer ne résonnera des cris de Cynthia. Menacée d'exclusion, la jeune femme a trouvé le moyen de s'échapper. « Ne me chassez pas, je m'en vais !» Pour elle, plus de salut, plus d'espoir, songe Solène. Seulement, la mort qui vient vous prendre la main et vous invite à danser dans le noir. Chapitre 25. Voilà 3 jours que Solène ne sort plus de chez elle. Elle ne descend même plus à la boulangerie. Elle n'a répondu aux messages inquiets de Léonard. Ils devaient se voir comme chaque mois pour faire le point sur la mission. Solène n'est pas allée au rendez-vous, n'a pas pris soin de le décommander. À quoi bon ? Elle n'a pas envie d'entendre la voix enjouée de Léonard, de subir son enthousiasme forcé. Elle n'en peut plus de ces gens qui vont bien, trop bien. Elle le laisse à son bureau encombré, à ses dinosaures en argile et à ses dessins. Elle ne connaissait pas vraiment Cynthia. Elle ne lui a parlé qu'une fois, le jour de leur altercation. Pourtant, sa mort la foudroie. Pourquoi cet abattement ? Pourquoi tant de chagrin ? Solène ne comprend pas. Puis soudain, l'image est là. Elle lui apparaît dans une effroyable clarté, le corps d'Arthur Sinclair écrasé sur les dalles en marbre du palais. La mort, sur son chemin, encore, la mort décidée, choisie, de ce qu'elle n'a pas pu ni su aider. La disparition de Cynthia la renvoie à celle de son client, tel un boomerang qui lui revient de plein fouet. Elle la ramène au sentiment d'impuissance, de culpabilité, au vide abyssal qui s'est ouvert sous ses pieds. Le spectre de la dépression ressurgit. Solène peut sentir sur elle son haleine glacée, ses doigts gelés qui tentent de l'entraîner. Le psychiatre a menti. Le bénévolat n'a servi à rien. Solène est retombée dans un puits. Elle s'était crue guérie, elle s'est trompée. Léonard appelle une nouvelle fois. Devant son insistance, elle finit par décrocher, d'une voix éteinte. Elle raconte la mort de Cynthia, son désarroi. La tragédie a sonné le glas de ses illusions. Elle lui fait toucher du doigt les limites de son engagement. Il est bien amer, le constat. Les mots ne servent à rien, Cynthia avait raison. Ce ne sont pas eux qui changeront le monde, pas ceux de Solène en tout cas. Elle ne souhaite pas poursuivre sa mission. Elle appellera la directrice du palais pour lui expliquer sa décision. Elle n'est pas taillée pour ce genre de combat. Elle ne sait que faire du chagrin de ces femmes, de leurs vies abîmées qui viennent se cogner à la sienne, les brécher encore davantage. Elle a tenté de se protéger, de suivre les conseils de Léonard. La distance, avait-il dit, c'est le maître mot. On ne peut pas endosser les drames de tous ceux qui viennent se confier. Il faut savoir se préserver, enfiler une carapace en entrant au palais et l'enlever en sortant. Solène en est incapable. Elle n'a pas l'âme d'une tortue ou d'un crustacé. Sa cuirasse prend l'eau, elle fuit de tous côtés. Certes, elle a connu des victoires, de minuscules victoires qui l'ont emplie de joie. Autant de grains de sable balayés par la mort de Cynthia. Solène n'a plus la force de lutter. Les vents contraires sont trop violents. Entre les murs accueillants du foyer, elle s'est crue capable d'aider ces femmes, de défier la misère. Vanité. Elle n'est rien de plus qu'un colibri, un insignifiant volatile au bec trop étroit qui s'agite en vain devant un incendie. Elle va reprendre le droit. Pas en tant qu'avocate, elle aurait l'impression de revenir en arrière. Tout plutôt que revivre le surmenage du cabinet. Elle peut, en revanche, solliciter un poste d'enseignante à l'université. Devenir professeure comme ses parents. Ce n'est pas le terrain de jeu dont elle rêvait, mais ses rêves finalement ne l'ont menée nulle part. Elle évoque ce roman qu'elle s'était promis d'écrire. Elle avoue qu'elle n'y arrive pas. Pour les autres, elle sait trouver les mots. Pour elle-même, ils ne viennent pas. Elle manque d'inspiration. Il faut croire qu'elle n'est pas faite pour ça. Léonard l'a écoutée sans l'interrompre. Après un long silence, il confie qu'il a froid. Il se tient dans la rue, juste en bas devant l'immeuble de Solène, avec des pains au chocolat. Il accepterait volontiers un café ou un thé si elle voulait bien l'inviter à monter. Ils restent longtemps à parler dans le salon, sur le canapé. Léonard a compris d'emblée que la partie était jouée, que rien de ce qu'il pourrait dire n'infléchirait la décision de Solène. Pour la première fois, elle se montre telle qu'elle est. Elle révèle sa fragilité, évoque son burn-out, le suicide d'Arthur Sinclair, qui a fait basculer sa vie. Elle dévoile tout ce qu'elle avait eu lors de leur première entrevue. Elle n'a plus rien à perdre, plus rien à cacher. Léonard est ému par sa franchise. Il était loin d'imaginer ce qu'elle avait traversé. Il confie qu'il a pris l'eau lui aussi, il y a quelques années, lorsque son ex-compagne l'a quitté. Elle était maman de deux jeunes enfants quand ils se sont rencontrés. Ces petits, Léonard les a aimés, bercés et élevés comme les siens. Il a vécu 10 ans de bonheur à leur côté avant qu'ils ne lui soient arrachés. C'est un fait, la société ne prévoit rien pour les beaux-pères et belles-mères abandonnés. Ni droit de garde, ni visite, sans lien de parenté avec l'enfant, on n'a pas de statut, on n'existe pas. On disparaît, on s'efface de leur histoire comme une silhouette qui s'évanouit sur une photo ancienne, comme un visage dont on ne parvient pas à retenir les traits. Léonard avoue le désespoir, les idées noires qui l'ont assailli. Dans la séparation, il n'a pas seulement perdu une compagne, mais aussi une famille. Il s'est retrouvé orphelin. De son ancienne vie, il ne lui reste rien, sauf les quelques dessins que les enfants lui ont laissés. 10 ans réduits à 3 bouts de papier. Assise près de lui sur le canapé, Solène l'écoute se confier. Elle le comprend si bien. Elle aussi est une rescapée de la solitude. Le vide et le silence, elle connaît. Les appartements dans lesquels on se perd faute d'avoir quelqu'un à qui parler, l'angoisse qui vous étreint à la nuit tombée, le désarroi de se réveiller seul au matin, l'appréhension des week-ends et des jours fériés qui ne sont rien d'autre qu'un enchaînement de longues journées solitaires où l'on tue le temps faute de se tuer. L'impression que la vie vous file entre les doigts comme du sable, comme un train qu'on ne peut arrêter, dans lequel on n'a pas choisi de monter. Oui, tout cela, elle connaît. Léonard s'apprête à prendre congé. Il respecte le choix de Solène quant à sa mission. Il n'a pas de conseils à donner. Il l'incite juste à persévérer pour son roman. Si l'inspiration ne vient pas, c'est peut-être que Solène n'a pas encore trouvé son sujet. Les mots sont des papillons fragiles et volatiles. Il faut le bon filet pour les rattraper. Il lui souhaite bonne chance pour la chasse aux lépidoptères et la remercie pour le thé. Et aussi pour les heures qu'elle a consacrées au palais. Il fallait du courage pour aller là-bas, pour franchir ses portes, pour gagner sa place parmi ses femmes. Solène a fait preuve d'empathie, de générosité, de patience. Elle n'est peut-être qu'un colibri, mais ses ailes sont immenses. Si elle change d'avis, qu'elle n'hésite pas à l'appeler. Elle sait où le trouver. Solène le regarde partir, sonner. Les mots de Léonard l'ont déstabilisé. Étrangement, il n'a pas essayé de la convaincre de retourner au palais. Lui, d'ordinaire, si insistant, l'abandonne aujourd'hui à ses interrogations. Elle va s'asseoir à la cuisine et saisit le bocal de bonbons. Elle y a placé chaque offrande de Soumeya. Le pot à confiture s'est rempli au gré de ses permanences au palais. Un bonbon pour chaque séance. Solène adore les sucreries, mais n'y a pas touché. Elle les a conservées, comme on garde un trésor secret. Ce soir-là, dans la solitude de son appartement, elle ouvre le pot et commence à manger les bonbons, un par un. Pour chacun d'eux, un moment du palais lui revient. Elle songe à Binta, à Salma, à Viviane, à Svetana, à Iris, à la Renée et à toutes les femmes qu'elle a rencontrées. Elle pense aux cours de Zumba, aux tasses de thé, à la veillée de Cynthia, à ces moments partagés. Avec les oursons en guimauve, les petites bouteilles de coca, les dragibus, les réglisses fourrées, les fraises tagada, les œufs au plat, les chamallows, les schtroumpfs et les crocos, le goût de la vie ressurgit. Il est trop sucré, piquant, écœurant, acidulé, mais il est là. Solène se dit qu'il est trop tard, bien trop tard pour Cynthia. Sa mort est injuste, intolérable, inacceptable. Pour une Soumeya sauvée, combien se sont noyés? Il est trop tard pour elle, mais pas pour d'autres. Des femmes blessées, il y en a plein les rues. Pas besoin d'aller loin pour en trouver. Il y en a justement une près d'ici, en bas, à genoux, devant la boulangerie. Dans cette dernière partie de notre lecture du jour, dans le livre Les Victorieuses de Laetitia Colombani aux éditions Grasset, dans le livre de poche, nous avons évoqué le décès volontaire de Cynthia. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Cette jeune femme colérique et râleuse, dont le fort caractère met souvent en émoi celle à qui elle s'adresse, nous avons vu en particulier sa colère, la colère de Cynthia dirigée justement vers Solène. Et ce suicide de Cynthia replonge Solène dans la douleur, la tristesse. Elle retrouve sa déprime qu'elle pensait disparue. Elle se sent coupable de ne pas l'avoir aidée quand elle était venue lui demander un service. Solène ne veut plus retourner au palais de la femme. Elle en fait même part à Léonard, qui lui a trouvé cette activité d'écrivain public. Tendant la main vers ce bocal rempli de bonbons donnés par la petite Souméya, un par un à chacun de ses passages au palais. Solène, nostalgique, se laisse aller à manger un, puis deux, puis trois, tous les bonbons, chacun d'eux lui rappelant un moment de partage avec quelqu'un au palais, et l'envie de tenter un nouveau sauvetage la reprend. Elle sait qui elle va aider. Et nous le savons, nous aussi, dans notre prochaine lecture, nous la retrouverons. Alors, je vous propose, chers auditeurs, n'oubliez pas, dans Joli pour vous, sur Radio Alliance Plus, vous aurez la suite de cette histoire. Solène sauvera quelqu'un. À bientôt, chers amis.
Alliance Plus.